Ici, podcast.
Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui sur Ici Podcast avec David Perron. David Perron, un expert de la culture geek, qui va nous parler de son parcours. Merci d'être présent sur ce podcast, David. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs d'Ici Podcast ?
Oui, tout à fait. Alors, pour faire très court, moi, je suis enseignant-chercheur, donc je suis en gros prof à l'université, pour ceux qui ne connaissent pas trop ce que ça veut dire. Et une partie de mon temps, je fais aussi des recherches. Et il se trouve que mes recherches sont, on va dire, en gros, sur les fans de pop culture. Et j'ai fait un doctorat, donc une thèse, sur la question de la culture geek. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'où ça vient ? Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi des gens s'en revendiquent alors que c'est une insulte à la base ? Enfin, toutes ces questions-là. Et aussi beaucoup sur la question de pourquoi est-ce qu'on se revendique geek et qu'est-ce que ça veut dire d'aimer se plonger dans des univers imaginaires fantastiques et souvent de jouer avec, de construire des mondes infinis, etc. Toutes ces questions-là. De voilà, quel plaisir on tire de tous ces univers-là qui vont de Star Wars à Harry Potter à Magic à jeux vidéo, voilà, tout ça. C'est un vaste sujet.
Bien sûr, hyper intéressant. Là, on va se focaliser peut-être sur Magic, Pokémon & Co. Est-ce que c'est des licences qui te parlent ? Est-ce que c'est des licences qui ont adopté un petit peu la culture geek avec, je sais pas, les conventions ou le besoin de se rassembler ? Qu'est-ce que t'en penses ?
C'est des licences, évidemment, qui sont au cœur de la culture geek telle que je l'aborde, justement, parce que pour moi, la culture geek, c'est, on va dire, deux choses principales, c'est les mondes imaginaires et jouer avec. C'est-à-dire que c'est pas juste être passif dans ces mondes-là, mais c'est vouloir créer du contenu ou se plonger dedans, mais de manière active. Et donc, le jeu vidéo, les jeux de société, les jeux de rôle et... leurs descendants pour moi qui sont tous ces jeux de cartes à collectionner avec en plus un élément qui est la collection qui est très important aussi dans les fans de pop culture hein, alors que ça va être collectionner des figurines, ça va être collectionner en ce moment les Funko Pop, c'est très à la mode, des posters, ça va être collectionner des DVD pour certains ou des choses comme ça ou des livres, mais il y a un besoin, une envie d'accumuler, alors pas pour le plaisir juste un peu d'accumulation un peu bêta, mais de plaisir de compléter des collections. Donc bien sûr le mélange de jeux et de collections, ça marche très bien dans ces jeux là et je dirais que peut-être le premier Magic a vraiment capitalisé là-dedans. Il y avait déjà eu avant des tentatives ou des choses autour des grandes franchises, justement Star Trek, Star Wars, il y avait déjà eu des jeux de cartes, soit juste à collectionner pour avoir des belles images, soit avec un peu de dimension ludique. Et Magic, en s'inspirant à la fois du jeu de rôle et de tous ces univers fantastiques de la pop culture, a su créer un nouvel univers en même temps, qui n'était pas dérivé d'autres choses, qui était rare à l'époque, et du coup a lancé ce mouvement-là. Et donc ensuite, bien sûr, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, alors... La différence, c'est que c'est japonais, les deux autres. Mais finalement, il y a beaucoup de points communs entre la culture pop japonaise et américaine. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas très surprenant non plus.
Moi, j'ai le sentiment que quand j'étais plus jeune, il y avait une méconnaissance de cette culture geek. Il y avait un côté un peu dérangeant, de manque de connaissance de cette culture. Tes parents qui se posent des questions sur le fait que tu restes beaucoup derrière les écrans. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a l'air beaucoup plus accepté. Est-ce que tu penses que c'est parce que les conventions... elles sont moins stéréotypées, moins spécifiques. Donc pour nos auditeurs, une convention, c'est tout simplement un rassemblement de personnes autour d'un sujet commun. Par exemple, les jeux vidéo, les mangas, les films. Et donc dans ces conventions, on rencontre plus de personnes différentes. Il y a moins ce côté se retrouver pour se revendiquer. Comment tu peux expliquer cette évolution ?
Moi, je vois le basculement autour des années 2007-2010, c'est-à-dire les années où, en fait, en gros, l'ADSL grand public se lance en France, et donc on a accès à... on est fan de tel comics underground, pas connu, mais on peut se retrouver à un forum où les gens sont fans de ça, et sur les réseaux sociaux, on multiplie ça. Et du coup, les conventions découlent de ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a le cliché classique du geek qui veut rester dans sa chambre et qui veut pas parler aux gens, mais en fait, on se rend compte que quand ils sont passionnés, qu'il y a des gens en face passionnés, ils ont envie de parler pendant des heures de ça, en fait. Toute personne passionnée a envie de parler, c'est juste que parfois nos passions sont vues, en effet, comme quelque chose un peu bizarre ou étrange. Et les conventions, clairement, on voit l'évolution parce que au début des années 2000, il y en avait une convention en France, c'était Japan Expo, qui existait déjà, mais c'était la seule. Et c'est le modèle japonais, américain. Et on voit que le public aussi a changé, parce que maintenant, on voit les gens qui vont avec leurs enfants, c'est un public très familial. Alors c'est vrai qu'à la base, c'était plutôt un public de jeunes ados qui allaient là-bas. Donc ils y sont encore, mais aujourd'hui, on a des familles qui vont faire leurs courses, qui vont regarder chacun leur franchise. Le papa qui aimait Star Wars quand il était jeune, il va aller voir ça. Et puis les gamins, ils vont aller voir Naruto et des cosplays d'animés récents. Donc ce mélange-là est super. C'est aussi le succès du mot geek. Pour moi, c'est pour ça que j'aime bien le mot geek, c'est qu'il a permis de rassembler. Parce qu'il y avait déjà des conventions de jeux de rôle, il y avait déjà des conventions de jeux de société, il y avait déjà des conventions de fans de cosplay. Mais le fait de dire tout ça, c'est un peu geek, même si on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ça permet au moins de dire il y aura une section jeux vidéo, il y aura une section rétro gaming, il y aura une section cosplay, et tous les gens en fait vont trouver à manger quelque part là-dedans. Et donc c'est ça qui permet de se rassembler, quelle que soit la génération et quelle que soit la passion, quoi.
Simple question, ce serait quoi ta définition de quelqu'un qui serait geek aujourd'hui ?
Bah, pour moi, déjà, c'est quelqu'un qui est passionné d'univers imaginaire et ludique. Voilà, tout simplement. Après, on va y mettre plein de choses dedans et on va y mettre aussi le côté péjoratif, donc le côté on est mal vu des autres. Souvent, c'est des gens qui ont le collège, un peu le lycée, parfois on se fait un peu moquer parce qu'on aime le jeu de rôle et pas le sport. Mais en vrai, ça change beaucoup. Donc, pour moi, c'est simplement une revendication d'une passion et le mot geek va être associé à certains types de passions. Donc, on avait fait les univers imaginaires fantastiques, ça va. En gros, on a des œuvres fondatrices, qu'on a Tolkien, on a Star Wars, on a Star Trek, on a Final Fantasy Zelda dans le jeu vidéo. On a quelques œuvres comme ça qui font que les gens vont dire, c'est un peu comme je compare souvent ça avec la musique, dans le domaine du rock, chacun va avoir son groupe de métal indépendant hyper pointu ou de rap régional que personne connaît, mais on va reconnaître que dans le rock, les Beatles et les Rolling Stones, c'est important. Bah voilà, Star Wars, Star Trek, c'est les Beatles et les Rolling Stones de la culture geek. Et voilà, donc on va tous se rassembler autour de ça, même si on n'est pas hyper fan, on va dire, bon, bah, il y a des choses communes et on va bien savoir que, en fait, ces œuvres-là ont créé des descendants. Et donc, bah, Harry Potter, clairement, descend de Star Wars, descend de la fantasy à la Tolkien. Et donc, en fait, on va retrouver une espèce de généalogie qui fait qu'on va tous dire, OK, bon, bah, on partage au moins un minimum de goût commun, ce qui fait que quelqu'un qui fait du jeu de rôle peut discuter avec quelqu'un qui adore le manga. Les deux ne partagent pas la même pratique de base, mais en fait, ils vont se dire, ouais, on aura des références communes quand même. C'est ça qui est, moi, je trouve intéressant.
Est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait des jeux vidéo en ligne, ça a facilité un petit peu ce lien qu'on pouvait avoir avec des joueurs qui étaient fans d'un monde spécifique, imaginaire? Ou alors avant les jeux vidéo, il y avait aussi ces possibilités de créer du lien?
Bah, moi, je crois pas à la notion de rupture directe où les choses seraient révolutionnaires d'un coup, mais je crois bien sûr quelque chose qui accélère des changements. Et donc, avant, dans les années 80, les gens des associations de jeux de rôle, ils se retrouvaient dans des garages ou dans le salon de la famille pour jouer. Et puis, c'est vrai qu'Internet et le jeu vidéo a apporté une massification, finalement, une accélération de tout ça. Et bien sûr, World of Warcraft a été très important, les jeux de stratégie en ligne, etc. Puis maintenant, League of Legends, Dota, etc. Et donc ils ont apporté en effet une accessibilité en fait à tout ça, une possibilité de le faire à distance hein, qui est aujourd'hui importante. On l'a vu avec le confinement aussi, ça a beaucoup aidé. Mais finalement pour moi il n'y a pas de rupture, c'est une continuité où les choses finalement sont réutilisées puisque on a même vu avec le succès dans les années 2010 de World of Warcraft, bah, des gens revenir dans les associations de jeux de rôle, de jeux de société, se remettre aux cartes Magic et on voit bien que maintenant Hearthstone qui est dans l'univers de World of Warcraft, et ben finalement est totalement inspiré de Magic et des cartes à cautionner. Donc finalement tout ça se mange ou se nourrit les uns les autres et je crois pas qu'il y a quelque chose qui va perdre. En tout cas, il y a souvent une inquiétude de oui, mais World of Warcraft ou les jeux en ligne à l'époque où c'était la mode vont manger le reste. Et en fait, finalement, au contraire, ça va donner envie de lire bah, l'imaginaire de la fantasy. Moi, je joue aux cartes Magic, ça m'a donné envie de lire Tolkien parce que je voyais bien que c'était inspiré de tout ça. Donc tout se nourrit, c'est ça qui est génial.
C'est vrai que une fois que tu fais un pas dans un jeu vidéo ou dans un monde, t'as envie de découvrir un petit peu d'où ça vient parce que t'as cette
Voilà les
passion qui reste.
références, ouais.
Ouais,
Les
je comprends.
références qui sont dedans, tu joues à Magic ou à Yu-Gi-Oh! Ou à tout ça, ou tu joues à un jeu vidéo en ligne, bah tu vois bien que les références viennent de quelque part et donc t'as envie d'y creuser, ouais, clairement.
Et c'est quoi ton moyen préféré pour rentrer dans un univers? Est-ce que ça va être au travers des jeux, des livres, de l'histoire, ou est-ce que ça va être des ramifications de culture comme t'en as parlé?
Bah, moi, je crois beaucoup à la transmédialité, c'est-à-dire le fait de croiser les médias, justement. Et en fait, alors moi, je suis venu plutôt par le cinéma et la littérature. Donc, moi, j'ai grandi avec Star Wars, Indiana Jones, les années 80, Retour vers le futur, toute cette pop culture geek, finalement, qui était un peu naissante. Et beaucoup la littérature aussi, de science-fiction, de fantasy. Mais très vite, en fait, quand on était fan de Star Wars, eh ben, on avait des romans Star Wars, des comics Star Wars, des jeux vidéo Star Wars. En fait, donc je ne faisais même plus la différence au bout d'un moment. Alors, je savais bien que les films étaient le truc principal qu'on essayait de nous vendre et c'est le premier truc par lequel on rentre dans ces univers-là. Il y a souvent un média principal quand même à la base. Mais au final, on voit bien que les fans d'Harry Potter aujourd'hui, ils commencent par les livres, ils vont aller dans le jeu vidéo, ils vont aller. Donc ça peut être plein d'accès différents. Moi, c'était plutôt le cinéma, la littérature et un peu les séries télé. Mais en vrai, il n'y a pas de point d'accès privilégié. Et je trouve que c'est ça qui est super aussi dans ces univers-là, c'est que on peut jouer aux cartes Pokémon sans avoir jamais touché un jeu vidéo Pokémon. Et à l'inverse, ça peut se nourrir les uns les autres, quoi.
En parlant de Pokémon, justement, il y a eu beaucoup d'évolutions sur la licence.
Ouais.
Enfin, Magic aussi, c'est pareil. Je pense que le confinement a facilité un petit peu tout ça. Je ne sais pas si c'est ce côté de revenir en enfance ou juste de chercher des mondes imaginaires que tu pouvais pas avoir pendant le confinement. Pokémon, enfin Pokémon Yu-Gi-Oh! Et Magic, ça commence à être exposé dans des musées. Est-ce que tu sais si il y a Star Wars, Star Trek? qui ont déjà eu leur lettre de noblesse, entre guillemets. Est-ce qu'il y a déjà eu des expositions dessus en
Oui,
France?
il y a des choses qui se font, notamment, alors en France, il y a eu beaucoup de choses autour du jeu vidéo. Il y a quelques années, il y a peut-être une dizaine d'années, ça a vraiment commencé à percer où tu avais des expositions dans les mêmes des grands musées avec des artworks de jeux vidéo, avec des choses ludiques. Et la grande force du jeu, que ce soit jeu vidéo ou même jeu de plateau, jeu de classique, c'est que tu peux accrocher les gens avec ça tout de suite. C'est-à-dire que je comprends qu'il y a une difficulté parfois à amener, même moi je l'ai vécu, hein, des lycéens devant un musée au Louvre et puis leur dire voilà, regarde, qu'est-ce que tu penses de cette peinture? Il y a un côté un peu pédagogique à l'ancienne où on s'ennuie un peu. Alors que là, tout même un jeu comme Pong, le premier jeu vidéo de l'histoire, entre guillemets, ben, tu mets quelqu'un devant de 8 ans, il comprend très vite comment on joue. Donc c'est vrai que du coup, il y a un côté ludique, même un Mario qui a 40 ans maintenant, eh ben, tu le mets devant et tout le monde va pouvoir jouer. Et tu peux à partir de là expliquer l'histoire du jeu vidéo qui est un art aussi et comment tout ça. Donc l'avantage de ces arts-là, c'est qu'ils sont accessibles et que justement cette culture populaire qui est très accessible, en même temps qu'elle a une profondeur derrière, elle permet de rentrer facilement dedans. Et on parlait de Star Wars. Star Wars, c'est un des rares films qui a plus de 45 ans aujourd'hui, où on peut encore le montrer à un gamin de 8 ans, il va aimer. Et c'est, il y a quasiment aucun film sorti en 77 où on peut faire ça. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose dans cette culture-là qui est très accessible, qui est très accrocheur, et qu'après, derrière, on peut en faire d'autres choses, quoi. Et donc, moi, je pense que c'est des portes d'entrée à des univers. Donc, qui est une reconnaissance là-dedans? Après, les générationnels aussi, parce que, bah, justement, ça a 40 ans, tout ça, le jeu vidéo, ça a 40-50 ans, Star Wars, ça a 40-50 ans. C'est normal que maintenant, les institutions s'y intéressent, parce que c'est rentré dans les mœurs, c'est plus devenu un truc subversif. Il y a des choses dans ces cultures-là qui restent un peu à la marge, et c'est bien, tant mieux, parce que ça fait partie, ça nourrit aussi les choses. Mais que ça soit reconnu, de plus en plus. Alors, sur les expositions sur Star Wars, bah, oui, il y en a une même exposition itinérante qui a fait un peu le tour du monde, qui était venu à Paris il y a quelques années, mais toujours dans l'interaction. C'était une exposition où on prenait un personnage de Jedi, où on avait notre pseudo, donc on crée un personnage, et c'est ça, c'est vraiment typique de ces cultures-là.
Justement, même là, tu me fais penser le pseudonyme, parce que avant, on allait dans les forums, donc on était obligé de passer par un pseudonyme. C'est quelque chose qui reste toujours. Est-ce que tu penses qu'il y avait aussi cette peur de se montrer sur Internet? Parce que je trouve que maintenant, avec les réseaux sociaux, on a moins peur de s'exposer. Comme avant, on voulait pas montrer des photos de nous, on voulait pas savoir qui on était, etc.
Oui, bah, il y a aussi tout simplement une raison économique, c'est que les réseaux sociaux, ça les arrange qu'on montre le plus possible qui on est dans la vraie vie, parce que c'est comme ça qu'ils nous vendent des pubs. Donc le ciblage fait ça. Donc c'est pour ça que Facebook, en théorie, nous oblige à mettre notre vrai nom. Au début, c'était pas le cas, au tout début de Facebook, parce qu'en fait, notre vrai nom permet d'identifier des adresses, identifier des carnets de, voilà, c'est des bases de données, et donc ça, c'est clairement du ciblage publicitaire. C'est vrai que moi, j'aime bien cette idée du pseudo à l'ancienne, pas uniquement dans le fait de se cacher et de pas montrer qui on est. Alors ça peut être le cas, parce que parfois, bah, dans les premiers temps d'Internet, on pouvait voir des gens très âgés puis des gens très jeunes qui se mélangeaient. Il pouvait y avoir un côté un peu bizarre. Alors que là, on se tutoyait tous, et il y avait une espèce de culture internet qui était très très sympa là-dedans, dans l'idée n'importe qui peut être qui il veut. Mais il y a aussi un plaisir bah, du masque, en fait. C'est comme bah, dans le jeu de rôle, dans le jeu vidéo, dans l'idée d'incarner un personnage et de jouer avec ça. Et je pense qu'il y a quelque chose même de sain même dans les jeux vidéo en ligne. Il y a ce qu'on appelle le roleplay, le RP, où on peut trouver des serveurs dans tous les jeux vidéo où on va jouer vraiment des personnages. Et dans ce cas-là, pour moi, le pseudo, c'était un moyen de jouer avec ça. C'était un moyen de. Souvent, les gens qui créent un pseudo, ils vont mélanger le nom de leur manga préféré, le nom de leur film préféré. Donc, en fait, ils expriment aussi qui ils sont dans une forme de choix. C'est très typique des identités d'aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, on n'aime plus être défini par ce qu'on nous a donné à la naissance. On n'aime plus être défini par le fait d'être homme-femme, par le nom qu'on nous a donné. Mais on aime être défini par les choix qu'on fait. Et les choix, ils arrivent tard. Donc, à l'adolescence, on aime un groupe de rock, on aime un manga, puis on va mélanger les deux, ça va faire un pseudo bizarre, mais au moins, ça sera nous. Et donc, cette idée de s'exprimer par ce qui on est, par les choix qu'on fait, bah, c'est les Internet et les faits que ça. Les profils des réseaux sociaux, c'est nous qui choisissons ce qu'on met dedans. Et donc, c'est l'idée de choisir notre identité. Et ça, c'est très contemporain. Ouais.
Est-ce que tu penses que tout ça va évoluer? Est-ce que tu penses que les licences comme Star Wars qui a été rachetée par Disney il n'y a pas très longtemps, donc il y a aussi cet objectif de la maintenir au top niveau, ou par exemple Pokémon qui est une des entreprises les plus rentables actuellement, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres acteurs qui vont pouvoir se sortir du marché, ou Star Wars et Pokémon, ça va un peu devenir les nouveaux entre guillemets Disney, c'est-à-dire où les parents éduquent les enfants et les enfants vont rester un peu dans le monde...
Ouais, bah, en fait, il y a plusieurs choses. Ce que tu dis, déjà, l'idée que c'est transmis, ça, c'est super intéressant parce que c'est la première génération aujourd'hui, là, des enfants, aujourd'hui, où vraiment on transmet la pop culture. C'est-à-dire que moi, mes parents, c'était pas leur domaine, ils connaissaient, mais c'était pas leur domaine. Il y avait déjà des parents un peu geeks, mais c'était plus rare. Aujourd'hui, 80% des gens au moins jouent du jeu vidéo une fois dans leur vie, ils voient ce que c'est, ils voient que c'est moins dangereux que ce qu'on le croyait. Même il y a toujours des clichés, mais ça évolue en tout cas, ça va mieux. Et donc c'est hyper intéressant d'observer aujourd'hui en effet comment ça se transmet, comment il y a une fierté des mes copains qui vont montrer leurs enfants le premier Star Wars, le premier Disney, le premier Harry Potter. Il y a une espèce de dire, en fait, on revit l'expérience, la fraîcheur de l'expérience à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est hyper agréable. Après, en effet, il y a le défaut de ça, c'est que Il y a un manque de renouvellement. Ça, on est tous à peu près d'accord pour dire que moi, je préférerais, et je suis fan de Star Wars, mais je préférerais qu'il y ait un nouvel univers de science-fiction qui émerge plutôt que les nouveaux Star Wars tous les ans de Disney, que j'en peux plus. Et mais en même temps, on est tous fautifs là-dedans parce qu'on est les premiers à transmettre et à préférer retransmettre ça plutôt qu'à dire ah, bah, il faudrait peut-être trouver des nouveaux trucs, des nouvelles choses à adapter. Donc, il y a une ambiguïté. L'industrie, bah, elle veut vendre des choses, donc évidemment, elle nous fournit des choses à acheter. Et parfois c'est trop. Comme ils savent pas s'arrêter, mais ils en font trop. Et en même temps, nous-mêmes, on est parfois un peu coupable de dire, bah, j'irais peut-être plus souvent facilement voir un nouveau Star Wars qu'un film de science-fiction d'une licence nouvelle, d'un univers nouveau, parce qu'on est tous un peu frileux et qu'on est un peu dans nos zones de confort. Donc, il faut que chacun essaie de trouver cet équilibre entre tout ça, de à la fois célébrer le truc par nostalgie ou par goût, pour dire, bah, c'était cool et on transmet, et à la fois ne pas rester enfermé là-dedans et savoir pousser à ce que l'industrie soit plus créative. Mais ça, faudra qu'ils se plantent, faudra que Marvel, Star Wars, tout ça se plante un bon coup pour que peut-être ils osent faire des choses nouvelles, parce que pour l'instant, c'est pas parti pour.
Parce que moi je pensais justement avec Pokémon que j'ai connu depuis tout petit,
Ouais.
que j'ai adoré, mais il y avait plein d'autres licences que j'ai aimées, notamment Yu-Gi-Oh! Que j'aime toujours. Il y avait ce côté évasion, il y avait ce côté découverte, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment on perd un peu ce côté nostalgie parce qu'on connaît tellement le monde dans lequel on a passé, on a joué, on a interagi, qu'on a juste l'impression de rajouter des informations chaque année et plus de redécouvrir quelque chose. Et, tu vois par exemple Naruto, quand Naruto s'est terminé. J'ai aimé parce qu'il y avait une sorte de page qui était figée dans le temps.
Ouais,
Après,
oui.
ils ont essayé de sortir d'autres choses, mais ça m'a moins intéressé. Mais c'est vrai que globalement, j'ai l'impression quand même de toujours soutenir, entre guillemets, ou participer aux mêmes licences. Est-ce que c'est parce que bah, y a cet algorithme qui fait qu'on va me présenter que celle-là parce que c'est susceptible de me plaire? Ou alors, moi, j'ai moins l'envie de chercher des nouvelles licences. Ça, c'est un truc que je sais pas.
Il y a un mélange de plein de choses en fait, parce que déjà, c'est des univers, forcément, ils créent des univers qui sont déclinables parce qu'ils savent que bah, justement, c'est rentable de les décliner sur plein de supports. Et en même temps, ça peut être bien fait aussi, hein, c'est pas parce que c'est voilà, commercial que c'est mal fait. Mais donc, forcément, ces mondes-là, ils ont ce qu'on appelle en termes techniques, une pulsion de complétude. C'est-à-dire qu'on a envie qu'on les complète. C'est vrai que ce qu'on appelle les univers étendus, finalement. Et clairement, les jeux de cartes à collectionner sont totalement là-dedans parce que même Magic, c'est un univers étendu qui continue. Enfin, qui est nourri que par les cartes en plus. Enfin, il y a des romans, il y a des jeux vidéo Magic, mais c'est d'abord les cartes qui ont créé l'univers. Et donc, on a envie d'en savoir plus cet univers. Ça devient un multivers, ça devient des choses extrêmement complexes. Et donc, on se dit, il y aura toujours à explorer. Après, le problème de la pulsion de complétude, c'est comme une collection. Le problème d'une collection, c'est qu'à un moment, ben, on a tout collectionné et on se dit, mais bon, oui, on voit bien qu'on nous rajoute des choses, mais c'est finalement très secondaire. Et dans notre imaginaire, nous, en tant qu'humains, ce qu'on aime bien aussi, c'est la frustration de ah, j'aimerais bien savoir. Il y a une phrase de Tolkien qui est très bien où on lui écrit des lettres de fans, où il dit, je reçois des lettres de fans, j'écris un bouquin de 2000 pages, et on dit, oui, mais à la page là, vous faites référence à une ville qu'on voit au loin dans la brume, et on me demande, c'est quoi cette ville? Et il dit, mais je peux pas répondre à tout ça, parce qu'en fait, justement, c'est ce qui fait votre imaginaire aussi, c'est que vous dites, c'est quoi cette ville au loin? Et si je fais un autre bouquin qui explique l'histoire de cette ville, je pourrais le faire, parce que dans ma tête, elle existe, mais c'est bien aussi que dans votre tête, vous dites, ah, j'aurais envie qu'il explore ça. Et en fait, le fait de trop combler les failles de tout le monde, parce qu'un monde imaginaire aura toujours des failles, notre monde à nous, il a cette force qu'il existe vraiment, donc lui, il est imbattable. Et donc ces mondes-là, ils seront toujours un peu battus par le monde réel. Mais cette frustration qu'on a, elle est bien aussi, ça pousse à faire des fanfictions, ça pousse à faire des fanfilms, à s'imaginer des choses, à faire des parties de jeux de rôle, en fait, à vouloir combler les trous par nous-mêmes. Et donc le fait de trop les combler, bah, après un moment, notre imaginaire devient un peu mortifère, quoi. Et donc c'est un peu le domaine. Mais on s'y complaît aussi parce que c'est agréable d'avoir encore du contenu dans ces univers-là. Donc c'est encore une fois un équilibre à trouver. C'est à chacun de se poser la question, vu qu'on est tous une génération qui avons grandi là-dedans, de aussi faire l'effort parfois d'aller chercher au-delà de notre zone de confort, de retrouver en effet des mangas qu'on ne serait pas allé lire parce qu'au début on se dit oh, pourquoi pas, pourquoi c'est un peu bizarre, et bien bah, tenter des choses. C'est à nous aussi de faire l'effort et après aux industries de suivre.
Juste un point, moi, c'est par rapport aux connaissances interdisciplinaires. Moi, par exemple, j'ai adoré Yu-Gi-Oh! C'est ça qui m'a donné envie de découvrir le monde de l'Égypte antique. Tu vois? Et c'est des choses que je pense que j'aurais pas eu l'envie de découvrir si j'avais pas récupéré plein d'informations de Yu-Gi-Oh! En fait, transmettre le virtuel vers le monde réel.
Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, encore une fois, la pop culture, quand ça marche, ça vient pas de nulle part. Ça fait appel à des schémas narratifs, à des histoires, à des manières d'écrire, de raconter des histoires qui sont très anciennes. Donc des mythes, des folklores, des légendes. Si ça se transmet, c'est comme une blague. Une bonne blague, elle va être déformée de plein de façons différentes. On va la raconter avec des nouveaux personnages, mais la structure de la blague restera la même et son efficacité sera la même et ça fera toujours rire des générations après. Ou en fonction, ça fera rire différemment selon les cultures. Et du coup, cette idée-là, elle est très forte parce qu'en fait, on oublie souvent que la pop culture, c'est pas juste l'industrie culturelle qui nous vend des trucs, c'est aussi bah, les histoires qu'on racontait aux enfants pour les endormir le soir, au coin du feu, ou voilà. Et donc finalement, bah oui, on peut partir de Yu-Gi-Oh!, de Star Wars, d'Harry Potter, de Magic, et dire bah, l'Égypte ancienne, l'art classique, l'histoire du monde, le folklore, les mythes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve souvent ça hein, chez les geeks, les fans des mythologies, les fans de légendes anciennes, parce qu'en fait, c'est les mêmes histoires. C'est en fait c'est les histoires qui nous lient entre nous. Ça sert à ça, les histoires, les mythes à la base, c'est dire à la communauté, vous êtes tous des gens différents, mais on a une histoire originelle commune. Et en fait, ça sert à ça, les histoires, c'est à nous mettre ensemble, à réunir, même si on n'est pas physiquement ensemble, mais à nous dire. On a des structures de pensée, des manières d'être qui sont communes, liées à une origine qui peut être mythologique, qui peut être fausse, mais on s'invente une histoire, finalement. Au final, presque un pays, c'est une histoire qu'on se raconte. Donc déjà, d'appartenir à un pays, on retient. Pourquoi est-ce qu'on retient Jeanne d'Arc qu'autre chose? Bon, bah, c'est parce qu'on a choisi, à un moment donné, de choisir ça. Ce qu'on appelle le roman national en histoire, c'est vraiment des romans, justement. Donc, finalement, on romance tout, notre vie, elle est toute basée par des fictions, même nos souvenirs, notre vie. Et notre cerveau, on sait très bien qu'il retient des trucs parfois qui n'ont aucun rapport avec la réalité, qu'on mélange des souvenirs, et ben on se raconte notre propre histoire. Et en fait, pour moi, tout est fait d'histoire. Et donc, que ça appelle à des structures et que ça nous a donné envie de s'intéresser ben, à un roman classique, se dire ben, finalement, peut-être que Star Wars, c'est proche de Victor Hugo, peut-être que voilà, ça c'est super intéressant parce qu'on voit qu'en fait, toutes les histoires se ressemblent.
Une dernière question, qu'est-ce que tu pourrais souhaiter à la culture geek pour l'avenir? Avec ton expertise, qu'est-ce que tu nous souhaiterais?
Bah justement de rester vivant, c'est-à-dire même si c'est le risque d'entrer dans les musées, c'est super, c'est une reconnaissance. Et la reconnaissance, on en a eu besoin parce qu'on a été décrié, mal vu, même accusé de crimes, de choses comme ça. À un moment donné, c'est bien que ce soit reconnu. Donc les institutions, on se reconnaît. Les institutions, c'est les musées, c'est les grands journaux, c'est les médias classiques. Le risque de ça, c'est que du coup, la muséification, ça rend un côté patrimoine poussiéreux, et donc il faut rester vivant. Et donc, même si ça rentre dans les musées, il faut le rendre vivant. Même si ça, justement, s'il y a des grandes franchises qui durent depuis 50 ans, il faut inventer de nouvelles choses, donc il faut être créatif, en fait, continuer à être créatif et jouer avec tout ça. Et c'est pas parce que c'est dans le musée qu'il faut le respecter. De la même manière que c'est pas parce que c'est Victor Hugo ou Proust qu'il faut absolument le lire avec révérence en disant ça peut être forcément combien. En fait, il faut ne, moi, les œuvres d'art, il faut pas les respecter. Il faut aller les chercher. Il faut s'y intéresser et pas les respecter comme un truc qui est sur un piédestal et qu'on peut pas toucher. Il faut toujours toucher et jouer avec.
Ouais, pas les sanctuariser, mais juste que ce soit une porte
Exactement.
d'entrée à aller vers l'information.
C'est ça,
D'accord.
ouais.
Bah merci beaucoup pour
Mais je
cet
t'en prie.
entretien, c'était exceptionnel. On se revoit bientôt pour un prochain épisode de notre côté pour ici podcast. Au revoir à tous.